Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio dans quelques instants, lundi de Pâques, j'espère que le chocolat est bon, que vous êtes allés à la chasse aux œufs. On se retrouve dans un tout petit instant pour réentendre Paul Perret et Miss France et un zapping spécial. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
Lundi
ça
de
va
Pâques, ça va très
vous
bien.
Vous faites bosser un lundi de Pâques.
Ben
bravo,
oui,
madame,
voilà.
Hein.
Mais on va s'arrêter à 9h30. Vous allez retrouver Christine Bouillot qui sera avec vous pour débattre, commenter l'actualité. Nous, on en profite pour vous faire écouter deux moments qu'on a bien aimés, Miss France et Paul Perret. Et puis le zapping, surtout que vous,
ben
avez,
oui.
Vous avez trouvé de très bons.
J'attendais, je pensais que vous m'auriez amené un lapin en chocolat.
Ça, demain, quand j'aurai. Quand
vous
j'aurai,
avez vu, attention, on peut plus manger de gâteaux en forme d'animaux. Je ne sais pas si vous avez
vu toute
cette polémique. Ah bah oui, parce que vous cassez un animal, donc vous brutalisez un animal. Donc il y a des gens qui disent qu'il ne faut plus manger de lapin ou de poule parce que vous massacrez un animal symboliquement et des jeunes enfants touchent. Je vous promets qu'il y a toute une polémique. Donc,
je n'avais pas vu ça. Allez, on va passer au zapping.
Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping.
Et oui, alors je vous ai mis du best-of et de l'inédit, Valérie. Alors, on va commencer par un peu de best-of, mais pour se rappeler des choses. Confiné pour vacciner, nous a dit la semaine dernière le président Macron. Mais il n'y a pas de vaccin. Et déjà en janvier, le patron de Moderna expliquait pourquoi l'Europe n'avait pas de vaccin, et encore plus la France, car les vaccins, on n'y a pas cru.
Les raisons que le test de Moderna est plus avancé aux États-Unis qu'en Europe, c'est que le gouvernement américain nous a aidés financièrement, a pris des risques très tôt pour nous aider au cas où le vaccin marcherait. Et le problème en Europe, c'est qu'on n'a pas eu un euro d'aide pour acheter des machines, embaucher du personnel ou sécuriser des matières premières très importantes. Parce que si on n'a pas de matières premières, on ne peut pas faire de vaccin, bien sûr.
Bien sûr.
Et donc, ça a été le problème qu'on a eu avec l'Europe.
Voilà où on en est un an après, de ne pas y avoir cru, on court après les vaccins. Depuis un an, les épidémiologistes, médecins, c'est dur à dire, anesthésistes se sont succédés devant les caméras. Ils n'étaient jamais d'accord depuis un an. Oh, du coup, en ce début d'année, Pascal Praud avait peur.
Comment vous expliquez l'attitude des Del Fressi, des Karine Lacombe, des Pialou, des Gilbert Deray? Moi qui me font peur. Je veux dire, je les vois arriver. Non, je ne veux pas encore dire ça, mais.
C'est vous qui le dites.
C'est la psychologie, ça m'intéresse. Oui. On a l'impression qu'ils ont un plaisir, pardonnez-moi d'utiliser ce terme-là, une jubilation à nous expliquer qu'il faudrait qu'on reste tous chez nous, etc. Et ils me foutent la trouille.
Il n'a pas changé de discours.
C'était en janvier sur CNews. La semaine dernière, gros succès d'audience pour le Prime Canapé 95 sur TMC d'Étienne Carbonnier.
Et regardez-le aussi en replay, vous allez passer un bon moment. C'est franchement très, très sympa cette année 95.
Du lundi de Pâques, c'était incroyable. Ouais. Canapé 95 sur TMC. Et alors, ils ont ressorti à l'époque, alors on va le voir avec nos yeux de 2020, certains programmes cultes, comme par exemple, vous vous rappelez de ce que lit Mulder, ils ont ressorti un extrait où, à l'époque, ils imaginaient tout ce qu'on pouvait faire avec Internet. Écoutez, c'est rigolo.
Internet débarque aussi dans les séries, comme dans cet épisode d'X-Files, où tu sens que les scénaristes ne savaient pas encore de quoi exactement servait Internet.
Je voudrais qu'on scanne ça et qu'on l'envoie à toutes ses correspondantes.
Bien.
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces
femmes. Ouais, on adore cette réplique de Scully, hein.
Je vais appeler Internet pour faire un fax. Une année de Covid-19 qui a donné lieu à une multitude d'inspirations, de créations, de vidéos détournées, des chansons d'amateurs et de professionnels. Vous vous souvenez, Pierre Perret avait revisité un de ses titres sur le Covid.
Oui.
Chez Jupiter, quoi qu'il goupille, on a le bordel, mais pas les filles. À l'Élysée, la famille Tuche, ils nous ont pris pour des nunuches. Véran Templan et le Salomon.
Voilà, on s'en lasse pas.
On
s'en lasse pas.
Pierre Perret.
Voilà.
Et puis certains font de l'art avec le Covid-19, comme on vient de l'entendre, et d'autres sont plus opportunistes, comme Jean-Marie Bigard. Alors, je sais pas, ça c'est un idée que je vais vous mettre. Je ne sais pas si vous avez vu, Jean-Marie Bigard a décidé de faire du commerce avec le masque où il y a écrit « Allez tous vous faire ». Et donc, ça a été énormément critiqué. idée qu'il utilise évidemment la Covid pour se faire de l'argent. Et vous allez voir comment il vend l'article. Et du coup, avec le réalisateur, on a eu une idée, c'est de mettre la musique du télé-shopping. Et ça va très bien, écoutez.
Bonjour les amis, présentation du nouveau masque, absolument réglementaire, hein, c'est un masque UNS 1, il est lavable 30 fois, hein, il est mieux que n'importe quel autre masque, les Adidas, les machins, il est un peu plus grand, et il n'y a pas de couture là, tu vas payer ça 12 euros les deux masques, ça te permet de te faire plaisir et de faire plaisir à quelqu'un.
Et oui Valérie, il n'y a pas de petit profit, que voulez-vous. 12 euros, c'est quand même un peu cher hein, pour un masque.
Un petit peu cher, on lui demandera s'il en a vendu beaucoup. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec Paul Perret. On vous propose de réécouter deux moments qui nous ont bien plu pendant ce début d'année. Paul Perret qui était venu nous parler de Top Chef.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour Paul, merci d'être avec nous.
Bonjour Valérie.
Vous êtes chef, vos restaurants sont à Shanghai, l'Ultraviolet, Mr. and Mrs. Bond & Pollux. Et puis tous les trois sont situés à Shanghai. Vous avez 3 étoiles pour Ultraviolet qui est classé parmi les 48, le 48e meilleur restaurant du monde dans le classement des 50 best. Hein.
Bon, les Français n'aiment pas trop le 50 best, mais ça a été très important. Et puis ça a été aussi précurseur parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Michelin. Shanghai, il ne faut pas penser que Michelin est nécessairement dans toutes les villes du monde. Il a fallu attendre qu'il vienne à Shanghai pour pouvoir récupérer 3 étoiles.
Et il faut dire que votre restaurant est très particulier. Ultraviolet, c'est une expérience à la fois ultra sensorielle, gustative, visuelle.
C'est toujours très difficile pour moi de le résumer en quelques mots, mais c'est vrai que c'est seulement 10 personnes
c'est
sur une seule table.
Ouais.
On impose l'offre et le temps, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas son menu, on ne choisit pas quelle heure on mange, et puis on va servir chaque plat.
Pourquoi vous êtes parti à Shanghai, vous êtes né à Perpignan.
Oui, mais c'est bon. Après, j'étais ouvert à la planète, puisque finalement, je suis parti pour la première fois de ma vie en 1992 ou 91, à quelque chose près, à Hong Kong. Et c'est là que j'ai découvert que finalement, il y avait des choses intéressantes dans le monde entier. Et si je voulais être libre de m'exprimer au travers de la cuisine, il fallait que j'aie les moyens de m'exprimer. Et puis, c'était peut-être à l'étranger que c'était plus facile pour moi de trouver un lieu où je pouvais développer ce qui deviendra ce que je fais aujourd'hui.
Vous avez déjà mangé de la chauve-souris et du pangolin ?
Non, je n'ai pas mangé de chauve-souris ni de pangolin. Je sais que les Chinois mangent tout ce qui tourne le dos au soleil. Mais
c'est pour ça, la chauve-souris
C'est pas commun, ça n'est pas commun du tout, non.
Et quelle est la chose que vous avez mangée d'étonnant là-bas ?
Rien de très étonnant, en matière
du requin,
de sourcing.
Ou des choses, hein.
Non, oui, bon, du requin, oui, ça peut se faire, mais ça se fait de moins en moins.
Il y en a même à Auchan, la poisseterie, hein, du requin.
C'est possible. Mais bon, l'aileron de requin, c'est en train de disparaître. Il y a une vraie campagne qui est dessus en Chine, une prise de conscience, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est la vraie découverte d'une cuisine. Moi, je fais très court, mais sur une anecdote de la première fois où je découvre la Chine à Hong Kong en 1992, mon très grand premier repas chinois, c'est là que j'ai compris qu'on nous aurait menti, c'est-à-dire que ça n'avait rien à voir avec les repas chinois que j'avais fait en France. Et c'est une cuisine magnifique, la cantonaise notamment, mais après l'ensemble des cuisines chinoises est fabuleuse. Donc ça, c'est intéressant.
Alors comment c'est arrivé l'aventure Top Chef ? Alors ça a un an, vous l'avez dit, c'était la première saison, là c'est la deuxième saison. Et pourquoi vous avez accepté ?
Alors c'est vrai que...
Parce que ça vous oblige à venir en France
pour
un temps un peu plus long.
Top Chef, c'est pas quelque chose de négligeable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous le propose, il faut le considérer aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de chefs qui aurait pu le considérer, j'étais un petit peu flatté, ça peut jouer aussi, vous parliez tout à l'heure de quand on est flatté, mais c'est vrai que ça correspondait aussi au moment où je voulais faire un projet en France, et je m'étais dit, bon, t'es pas très connu du public, en tout cas en France, même si je connais de mes collègues, c'est peut-être l'opportunité de commercialement chercher à faire quelque chose qui va te donner une grande exposition, et hors ce phénomène, j'avais assisté à une émission dans la saison précédente que j'avais beaucoup appréciée, j'avais été très impressionné d'ailleurs par le principe de la production, je suis fasciné par ce genre de choses quand c'est très bien fait.
Quel est le grand chef qui vous a donné envie de cuisiner ou que vous admirez ?
Dans les gens qui m'ont donné envie de cuisiner, il y avait 3 personnes à l'origine de ma carrière, c'était Joël Robuchon, Jacques Maximin et Michel Trama.
Ouais.
Pour la créativité d'un côté, l'hyper maîtrise de l'autre, et tout un tas de raisons que à mon nez, je connaissais leur œuvre par cœur, d'accord ?
Ah oui ?
Et puis après, il y a eu, bien sûr, le patron qui est Monsieur Alain Ducasse, que j'aime beaucoup.
Comment vous êtes venu à la cuisine ? cuisine. C'était une vocation ou vous y êtes arrivé un petit peu par hasard?
La transmission du goût de manger, c'est sûrement faite par ma mère et puis par ma famille, puisqu'il y avait des gens qui cuisinaient très très bien dans la famille, mais j'ai pas d'atavisme en matière de culinaire professionnelle. C'est venu au travers, je raconte toujours ça, et puis c'est une réalité, c'est pas une légende, je retrace un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai fait de la cuisine, au travers d'un bouquin qui s'appelle Les recettes de grand-mère Donald. Les bonnes recettes de grand-mère Donald, que j'ai toujours, c'est ma Bible, je l'ai, je suis pas dans mon bureau, mais j'ai l'à côté de chez moi à Shanghai. Et c'est un petit bouquin que j'ai eu à 9 ans pour mon anniversaire. Alors on imagine si j'avais eu un livre sur les moines tibétains, je serais peut-être devenu moine. C'est une époque où on est très influençable et j'ai beaucoup aimé le fait que dès que je faisais une recette, aussi maladroite soit-elle, les gens étaient fascinés et applaudissaient. Cette espèce de force de communication de la cuisine. Alors, je pense qu'il y avait de l'indulgence à l'époque, mais je faisais des choses, je faisais des truffes en chocolat par exemple à Noël, j'en foutais partout, je m'en mettais partout, mais c'était bon et puis finalement, la force de communication de la cuisine m'a conquis.
Alors, vous savez quoi, je suis allée regarder les recettes de grand-mère Donald, on peut le trouver sur eBay, il vaut 229€ aujourd'hui.
Eh oui, alors moi, en plus, j'en ai vraiment
c'était les
Castors
Junior, voilà. Il existe ce livre.
Fifi et Loulou.
Absolument. Les délices de Robinson, vous vous souvenez de ce que c'était ou pas?
Alors, les délices de Robinson, je me souviens très bien de ces noms de recettes, je ne sais pas ce que c'était. Les truffes en chocolat s'appellent les cailloux du Vésuve. Donc, il y en a quelques-unes comme ça, je ne peux pas me souvenir de tout, même si à un moment donné, j'avais vraiment étudié. Il y a quelque chose qui est vrai, c'est que ce livre qui était un petit peu iconoclaste à l'époque, parce qu'il avait été écrit pour des enfants, donc il n'était pas dans la tradition des livres culinaires, et c'était un petit peu décalé, ça a peut-être influencé la façon dont je travaille par la suite.
Si moi je viens chez monsieur et madame Bund, vous me conseillez quoi?
Alors, impossible, il y a 100, 120 plats à la carte,
il y en a eu
350, et encore, j'étais pas en forme, j'en avais écrit 1000.
Là, il y a 120 plats.
C'est pour vous dire.
Dague.
Là, il y a 120. Il y a à peu près 120, on a beaucoup réduit. Mais c'est un restaurant un petit peu. Ça a été calqué sur le modèle chinois. C'est-à-dire que quand je l'ai fait, j'ai voulu faire le premier restaurant occidental, français en l'occurrence, calqué sur le modèle chinois avec des déclinaisons. C'est-à-dire que je disais, les cèpes, ça va bien sur une côte de veau, mais ça va aussi bien sur une sole. Donc on va se retrouver avec une déclinaison, la sole en plusieurs recettes, etc.
Gilles? Non, mais moi, je vais réserver ma place
à Shanghai.
À Shanghai, et puis aussi à Paris, du coup, parce que vous nous avez fait cette annonce.
Et la ville est sympa à Shanghai?
Oui, mais la vie est sympa, mais vous savez, ma vie est quand même beaucoup dédiée
beaucoup
à ce que je fais, et ça reste ma grande passion. Donc, ce serait sympa partout où je serais, où j'aurais un restaurant
où vous pouvez
à animer. Voilà.
Il y a un produit que vous n'aimez pas du tout?
Le Vegemite. C'est le seul truc.
C'est quoi le
Vegemite et Marmite. Vous connaissez?
Ah
c'est une espèce de levure comme ça. Et c'est très rare que je dise ça. D'ailleurs, avant ça, je pensais que le mauvais n'existait pas. Je confirme que oui. Enfin, je vais pas me faire attaquer par la marque, mais j'ai un mal fou.
C'est un truc anglais qui est une espèce de truc.
Alors, une version anglaise, et puis moi, je l'ai dégusté au petit déjeuner en Australie avec des jeunes filles qui ont essayé de me convaincre qu'il fallait que je mange ça le matin. C'est pas possible.
C'est tout. Sinon, vous avez pas de.
Non,
manger de tout.
Et un produit qui a pas d'intérêt à cuisiner?
Ils ont tous un intérêt, c'est ce que je dis, et j'adore cette idée de transformer l'ordinaire en donnant des attentions extraordinaires. Donc, tout est intéressant.
Sud Radio 10h midi, Média.
Moi, je l'adore, hein, Paul Perret, c'est incroyable.
Sympathique, et j'espère que tout se passe bien en Chine pour lui. Allez, on va réécouter Miss France. Alors, c'était quelques temps après son élection. Elle nous avait assez étonnés.
Elle était une femme avec
la tête sur les épaules.
Absolument. Elle était très belle. Hein.
Très belle, comme toutes les Miss France. Et puis, elle venait nous parler de ses premiers pas de Miss France, Amandine Petit.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Miss France 2021, vous avez été élue donc au Puy du Fou, c'était le 19 décembre dernier.
C'est ça.
Miss Normandie, vous succédez à Clémence Bodineau, pardon.
Oui.
J'espère que vous aurez une année un petit peu plus zen que la sienne.
J'espère aussi. Après, c'est vrai que
on peut pas dire que ça a commencé très zen.
C'est vrai. Mais bon, après,
on va revenir effectivement sur ce qui s'est passé.
Moi, j'ai mis mon masque parce qu'elle a été dans un cluster.
On va y revenir. Alors, racontez-nous déjà comment ça s'est passé pour vous.
Oui, puis le moment qu'on vient d'entendre.
Oui,
le soir
de l'élection, c'était incroyable. Honnêtement, en fait, c'est une soirée où est-ce qu'on est préparé. On nous dit que c'est une soirée qui va passer extrêmement vite. Et de fait, c'est une soirée qu'on prépare pendant 2 semaines. Et le temps de la soirée, on a l'impression qu'en une fraction de seconde, tout s'est passé. C'est juste incroyable parce que tout s'enchaîne. On passe dans les 15 et puis après on passe directement dans les 5. On a un petit regret quand même pour toutes les autres filles qui ont appris toutes les chorés et qui finalement nous suivent plus. Mais voilà, ça fait partie du jeu. On était au courant en faisant cette aventure-là qu'il y avait qu'une seule.
Et pourquoi vous, à votre avis?
Et pourquoi moi? C'est compliqué à répondre à cette question-là parce que toutes les filles, en fin de compte, elles avaient toutes quelque chose. Et si on était toutes là, c'est parce qu'on avait la prestance et puis la capacité et surtout l'audace d'être ici, puisque c'est pas forcément facile d'être sur le plateau de Miss France. Je pense que le naturel et puis peut-être la spontanéité a fait que ça l'a fait, mais le naturel dans le sens de la réponse, puisqu'effectivement on est toutes préparées, on est toutes.
Moi je voulais savoir, quand vous êtes interrogée par Jean-Pierre Foucault, il y a un prompteur ou c'est votre propre réponse?
Ah non, du tout.
D'accord.
Alors Jean-Pierre Foucault, lui, a un prompteur, mais comme sur n'importe quelle émission. Voilà.
Mais vous, non.
Non, du tout. Nous, on n'a pas de prompteur et d'ailleurs, nos discours, en fin de compte, le discours que l'on fait dans les 15, il n'est pas répété avec la production Miss France.
Ah oui.
C'est-à-dire que chacune peut dire
ce qu'elle a envie de dire.
On a juste plus ou moins une minute, parce qu'on sait qu'au-delà d'une minute, les gens vont décrocher et c'est tout à fait normal. Ouais. Mais ce n'est pas répété. Donc moi, je sais que j'avais plus ou moins préparé quelque chose, mais qui, avec des lignes directrices, on va dire. Et je l'avais répété avec Miss Nord-Pas-de-Calais pour avoir un soutien et aussi un œil extérieur. Elle avait fait la même chose avec moi. Donc, ce qui montre bien à quel point on se soutient aussi au sein de toutes les missions.
Alors, comment, quand on a 21 ans, on se présente à un concours?
Moi, ça a été tout particulier, en fait. Ça a été un concours de circonstances. J'ai croisé Malika Ménard dans les rues de Caen lorsque j'avais 17 ans, qui m'avait inscrite au concours Miss France au moment. Et j'avais été, enfin, au concours Miss Normandie, et j'avais été deuxième dauphine de Miss Normandie. Et le temps faisant, je me suis représentée 5 ans après, donc à mes 23 ans, et en fait, j'ai été élue Miss Normandie. Mmh. Et puis après, tout s'est enchaîné.
Est-ce que vous vous êtes dit « je suis très belle » ?
Non, j'aurais jamais l'audace de dire une
mais quelque chose. Mais vous vous trouvez belle ou
pas ? Je pense que c'est plus, c'est pas forcément que par rapport à la beauté, c'est aussi l'assurance et c'est un défi qu'on se pose à soi-même de se dire, je vais essayer de rendre fière déjà toute une partie de sa famille et de ses amis qui nous soutiennent dans ce genre
oui,
de choses.
Mais au quotidien, vous vous trouvez quand même un peu canon.
On va pas dire canon, mais on...
Pas mal.
Ça va. Mais comme chacun d'entre nous, on va dire.
Tout le monde peut pas être Miss France.
Ah. Alors, c'est vrai que votre élection, elle a démarré assez fort avec une polémique qui a démarré avec ce qui s'est passé pour Miss Provence après Benayoun. Ça, vous l'avez vécu comment aussi?
Bien, j'ai trouvé ça tout à fait indignant d'entendre des propos pareils, surtout à l'époque à laquelle nous sommes, dans le cadre de Miss France, mais de manière générale, ce sont des propos qui n'ont aucun lieu d'être. Mmh. Et donc, j'étais stupéfaite d'entendre ce genre
de propos. Alors, vous étiez face à elle dans cette réalisation, on voit tous les deux avec la caméra autour et on vous voit beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, ce qui n'était pas trop le cas des autres années. Mais qu'est-ce que vous avez bien pu vous dire entre Miss Provence
et... C'est le grand secret. C'est vrai qu'à chaque fois, tout le monde nous demande et effectivement...
Ah, parce que ça s'est énormément vu à l'image, en fait, que vous parliez beaucoup.
C'est vrai. Alors, en fait, moi, je me souviens que j'avais les larmes aux yeux, mais plus que les larmes aux yeux, je crois même. Ouais. Et en fin de compte, face à face avec April, on se sent, en fin de compte, dans la même aventure, mais c'est surtout se dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter pour l'une d'entre nous, et là, on est vraiment à la porte de ce qui va se passer. Donc moi, ce que je lui ai dit qu'elle avait été merveilleuse, qu'elle était parfaite, et elle voyait que j'étais très émue, et elle a essayé de me rassurer en me donnant le même compliment.
Mais vous vous dites pas, ça va être toi.
Si, à un moment donné, on se l'est dit. Ouais. Mais c'était surtout se rassurer sur le parcours qu'on avait fait, et en se disant, tu étais très belle et t'as été parfaite pendant toute l'élection. Ouais. C'était une manière de montrer notre soutien l'une envers l'autre, même si, à un moment donné, dans les secondes qui vont suivre, il n'en restera qu'une seule avec la couronne de Miss.
Alors, vous avez une liste de choses que ne doit liste... pas faire.
Non, il n'y a pas une liste restrictive.
On sait ne pas poser nu, ça on le sait.
Mais après, voilà, en fait, il n'y a pas de liste restrictive, mais tout s'agit de faire preuve de bon sens et ne pas s'engager politiquement, pas donner son avis, parce qu'on n'est pas là pour cloisonner et puis je suis surtout pas là pour ça, en fait.
Pas là pour ça. Vous êtes là pour donner du rêve. C'est quoi Miss France?
C'est donner du rêve. C'est aussi porter la parole, par exemple, sur ce qui s'est passé sur April Benayoum, sur les propos antisémites. Et bien c'est faire le porte-parole de ce genre de choses. Et la parole de Miss France vaut aussi pour ce genre de choses, vaut pour la maladie d'Alzheimer que moi je souhaiterais soutenir. et voilà, en fait, mettre en avant certaines causes.
Est-ce qu'il y a des causes qui vous sont plus chères que d'autres?
Oui, celle-ci, par exemple.
Vous répondez la maladie d'Alzheimer, ce qui est un progrès, parce que quand on parle avec les gens qui s'occupent de la maladie d'Alzheimer, ils disaient qu'il y a quelques années, personne ne voulait s'engager auprès d'eux, parce que soit les comédiens ou les personnes plus avancées en âge disaient, on va croire que je suis concernée, et les plus jeunes, se sentaient pas concernés. Donc,
c'est vrai, mais après, on se rend compte, mais c'est vrai, et en plus, par exemple, là, dans les études que je peux faire, c'est des études qui n'étaient absolument pas demandées auparavant, et maintenant, il y a une liste d'attente sur des personnes qui souhaitent devenir directeur d'établissement de santé, parce que on a un avenir à ce niveau-là, et parce que les personnes âgées, en fin de compte, on a les baby-boomers qui deviennent justement la génération des papy-boomers à l'heure actuelle, et donc toutes ces maladies dégénératives et la prise en charge des personnes âgées devient un vrai sujet d'actualité. Et donc moi, après, ça m'intéresse aussi parce qu'ils ont énormément de choses à nous apprendre et qu'à un moment donné, c'est aussi à nous, par le revers de la médaille, de les remercier en s'occupant d'eux en fin de vie.
Nous deux questions sur la télé. Qu'est-ce que vous regardez à la télé ou sur les plateformes?
Ce que je regarde à la télé, alors j'aime bien regarder quelques séries sur Netflix, effectivement. Après,
votre série préférée?
10%. La dernière série que j'ai pu regarder,
c'était 10%, France 2 à la base. Ouais,
j'ai beaucoup aimé.
Et ça vous plairait d'être comédienne?
Pourquoi pas? Ça pourrait être une belle piste. Ouais. Après, j'ai jamais fait mes premiers pas, mais ça pourrait être une belle piste.
Bon. Alors, dernière chose, vous avez les boucles d'oreilles Mauboussin, la bague Mauboussin. Dans tous les cadeaux,
elle
est pas mal. Dans tous les cadeaux, quel est le cadeau qui vous fait le plus plaisir? La voiture, l'appartement?
Je crois que de manière symbolique, la couronne de Miss France, c'est un cadeau qui me paraissait tellement inaccessible et tellement, tellement beau, en fin de compte, sur toutes les Miss France. En fin de compte, c'était la première fois que je voyais une vraie couronne de Miss France. Et c'est vrai que dès lors que je la montre, ou que je peux la... Alors, on la porte pas en public, la couronne de Miss France, ou sur des grands événements, mais lorsque je l'avais avec moi et que j'ai pu la montrer à ma famille, elle est magique, cette couronne. Dès lors que je la sors, elle met des paillettes dans les yeux.
Elle est où, chez vous?
Elle est cachée.
Elle est cachée. Mais écoutez, merci d'être venue sur Sud Radio, Amandine Petit, Miss France 2021.
Merci, c'est très gentil.
Merci à vous.
Sud Radio 10h midi, Média.
Voilà, c'était Amandine Petit, notre Miss France 2021, qui hélas, va pas avoir beaucoup d'activité cette année.
Alors, mais peut-être dans sa deuxième partie de son règne.
Dans un instant, vous allez retrouver Christine Bouillot. C'est elle qui aujourd'hui va diriger d'une main de maître les débats. À tout de suite, restez avec nous sur Sud Radio.